c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Attitude, votre radio en Charente avec Alain Jeanne.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chute, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente en Charente sur mariemorin.fr.
Chute, on écoute la télé. Avec votre espace culturel Leclerc à Ruffec, votre référence culturelle en Nord-Charente.
Chute, on écoute la télé avec l'Angélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arômes, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glacés artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et l'Angélis, c'est maintenant 3 boutiques à Royan, Paris et Bordeaux.
Attitude.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Comme chaque lundi à 13h et mardi à 19h, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo sur Attitude, votre radio en Charente. Pendant une heure, on va passer en revue toute l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors détendez-vous, on s'occupe du reste. Voici tout de suite le sommaire de cette semaine.
Chute, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et au sommaire de ce nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, on va consacrer notre coup de cœur ciné au film Les Olympiades, le nouveau film de Jacques Audiard qui sortira le 3 novembre dans les salles. Toute l'équipe du film va nous rejoindre dans une poignée de secondes. Jacques Audiard, Lucie Zhang, Makita Samba et Jenny Bess seront nos invités exceptionnels. L'ami qui n'existe pas, ça sera diffusé ce soir sur France 2. Nicolas Cuche, Audrey Dana et Mehdi Sadoun seront également nos invités en fin d'émission. Germinal, ça débarque mercredi sur France 2, son réalisateur David Oureg viendra nous en parler. Il est à l'affiche de Demain nous appartient dans le rôle de Georges. Je sais que vous l'adorez. Maïel Elajaoui viendra nous parler évidemment de Georges, mais aussi de son spectacle. Et puis enfin, Nicolas Anselmo également, qui joue Elliot dans Ici tout commence, sera notre invité également pour nous parler évidemment de son rôle et de Ici tout commence. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer. Chute, on écoute la télé. C'est parti.
Les tops et flops d'audience.
Et juste avant d'accueillir l'équipe des Olympiades, un petit tour vers les audiences de la semaine dernière et on démarre avec lundi et L'amour est dans le pré qui est en tête avec plus de 4 millions de téléspectateurs et 19,9% de part de marché. Loin de chez moi sur TF1 est deuxième avec 3 692 000 et sur France 3 Apocalypse Hitler attaque à l'Est fait bien 1 809 000 téléspectateurs seulement pour 8,8% de part de marché. Et puis France 3 arrive en tête mardi avec L'amour est dans le pré, 4 144 000 téléspectateurs pour 19,2% du public. Koh-Lanta est deuxième avec 3 840 000 et France 2 est quatrième seulement avec 1 905 000 téléspectateurs pour 9,2% de part de marché pour Les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Mercredi, J'ai menti arrive en tête. Le final réunit 3 167 000 téléspectateurs tandis que La France, un incroyable talent, fait son retour devant 2 815 000 fidèles. Voilà ce qu'on pouvait dire des audiences de la semaine dernière et tout de suite, eh bien voici notre spécial Les Olympiades.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, coup de cœur cinéma consacré au film Les Olympiades, le nouveau film de Jacques Audiard qui est notre invité justement aujourd'hui. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et qui est rejoint d'ici quelques instants par Lucie Zhang, Makita Samba et Jenny Bess qui seront donc nos invités avec nous pour nous parler de ce film. Jacques, pour commencer, Les Olympiades, c'est quoi? Racontez-nous en quelques mots. Il me semble que c'est un quartier de Paris.
Oui, c'est un quartier dans le 13e arrondissement qui a été édifié dans les années 60-70. C'est un quartier de tours. Il n'y en a pas tant que ça à Paris. Et chaque tour porte un nom de ville olympique. Et les Olympiades, c'est un hommage aux Jeux Olympiques d'hiver qui s'étaient tenus à Grenoble à l'époque.
Alors ne soyez pas surpris, le film est en noir et blanc. C'est un véritable parti pris, Jacques.
Oui, c'est un parti pris parce que le 13e est un quartier très moderne, c'est un des quartiers les plus modernes, les plus mouvants, changeants de Paris, et le noir et blanc lui allait bien, voilà.
Je trouve que ça donne un certain charme au film justement. Un charme cinématographique.
Oui, on sort un peu de la carte postale chromo parisienne. Voilà, c'est ce que je voulais, c'est que ça apparaisse comme une métropole étrangère, voilà.
Qu'est-ce qui vous a donné envie l'idée de raconter l'histoire de ces jeunes gens qui se rencontrent, qui s'aiment, où l'amour est vraiment au rendez-vous de ce film?
Bah, ça vient de, comment ça vient d'abord d'une découverte, une lecture, une découverte de l'œuvre d'Adrien Thomine, qui est c'est des romans graphiques, c'est un dessinateur. Et en fait, c'est le film Les Olympiades, c'est l'adaptation de trois nouvelles et qui traite effectivement de ça, de jeunes adultes en attente de quelque chose.
Comment vous les avez trouvés justement, vos jeunes comédiens qui vont nous rejoindre dans un instant? Qu'est-ce qui vous a séduit chez eux?
C'est Christelle Barras qui a fait la directrice de casting, qui a fait tout ce travail-là. Moi, je n'ai fait que finalement récolter le résultat du travail de Christelle. Et puis après, ça a été du travail, de la répétition, et voilà.
Quel a été le meilleur moment du film pour vous, au niveau tournage?
Comment c'était, c'est un peu bête de dire ça, mais c'était un tournage très, assez rapide, et donc c'était un tournage très heureux. Mais je crois que ça a été très heureux parce que c'était assez allégé par le travail qu'on a fait en amont. J'ai un sentiment de grande facilité, et ça c'était agréable. On a tourné en plein confinement, et moi je sais que le matin j'étais assez heureux. On était enfermés chacun chez soi, c'était un peu, et que le matin je me retrouvais dans cette petite communauté du tournage, c'était vraiment un plaisir. Voilà. Bon, je me disais, c'est même pas un plaisir. On a vraiment de la chance qu'on est des nantis.
On va bien sûr donner la parole aux comédiens d'ici quelques instants. Les Olympiades, ça sort dans 2 jours au cinéma. Comment se sent Jacques si c'est loin d'être votre premier film? On a toujours une petite appréhension, un petit trac?
Non, j'ai pas le trac de la. J'ai le trac des projections quand je suis dedans. Vous voyez, quand je présente le film. Après, une fois que le film, que les portes des salles de cinéma s'ouvrent, voilà, c'est comme si ça ne m'appartenait plus du tout. C'est pas. J'ai plus le. Là, je suis plus angoissé. C'est fini.
Alors justement, nos 3 jeunes comédiens nous ont rejoints. Makita Samba, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour Alain.
Merci d'être là. Lucie Zhang également est avec nous. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Et bonjour Jenny Vest qui est avec nous aussi.
Bonjour.
On va écouter la bande-annonce, on va parler avec vous. Merci Jacques d'avoir été avec nous. Et puis on vous dit à très bientôt. La bande-annonce des Olympiades. Et on revient avec vous Lucie, Makita et Jenny. À tout de suite.
Je peux te poser une question?
C'est quoi ta vie sentimentale?
Moi j'ai pas envie d'être ensemble avec qui que ce soit. Je compense ma frustration professionnelle par une activité sexuelle intense.
Cool.
Allez, de retour pour notre spécial Les Olympiades, le nouveau film de Jacques Audiard. Alors, Makita Samba, Lucie Zhang et Jenny Bess sont donc nos invités. On le disait, alors, à l'écran, un film très cinématographique. On le disait avec une image en noir et blanc. Et alors, quand on tourne pour Jacques Audiard, on se dit quoi déjà? La première chose, Jenny.
On se doute, ce qui est révélé très très vite au premier entretien, que ça va être très exigeant. Ça va être un travail assez intense et assez exigeant, et en même temps, je crois, enfin, moi j'ai eu l'impression que ça demandait une grande concentration, mais du coup il y a un certain plaisir à être concentré sur quelque chose. Donc voilà, c'est du travail en fait, voilà. Et c'est ce qui nous met dans la tête très très vite, c'est qu'on est là pour aller vers quelque chose et on y va ensemble.
Ouais, il sait vraiment où il va là-dessus. Comment tu pourrais nous définir Amber Sweet, qui va se révéler au fur et à mesure du film?
Alors Amber Sweet, c'est un personnage qui arrive en milieu de film. C'est une ex-porn star qui est devenue cam girl, qui porte une perruque et qui a une ressemblance avec le personnage de Nora, qui est joué par Noémie Merlant. Et voilà, bon, je ne vais pas révéler tout le film, mais en gros, elles finissent par se rencontrer sur le site d'Amber Sweet, qui elle est cam girl. Donc voilà, et elle se lie d'amitié et d'amour ensuite. Voilà.
Lucie, ce rôle d'Emily. Alors toi, pareil, comment t'as appréhendé le fait de jouer pour Jacques Audiard? Parce que alors, premier rôle, premier film, et en plus avec Jacques Audiard. Là, on doit quand même se sentir le premier jour de tournage un peu, hein?
Oui, c'était mon premier rôle de long métrage. Et ce que j'appréhendais, j'appréhendais tout. Et je me suis dit à l'avance que ça sert à rien d'imaginer ce qui allait se passer et de prédire, parce que de toute façon, je suis sûre que je vais vivre des choses que je n'ai pas pu imaginer, qui sortent de mon imagination. Et donc, je laisse venir et j'accueille tout, quoi.
Des scènes difficiles, des fois, à tourner quand c'est son premier rôle?
C'est surtout les scènes dont je ne sais pas la sensation, je ne connais pas. Les choses sont nouveaux.
L'inconnu.
L'inconnu, oui, c'est ça. C'est-à-dire que si une sensation, je ne l'ai jamais connue avant, je ne sais pas d'où ça peut venir, à part le sentir de moi-même, mais du coup on a eu des moments de travail qui nous ont beaucoup aidés pour sentir les choses, oui.
Alors Makita, on va venir au personnage de Camille qui est un peu le personnage central qui lit un peu toutes les histoires, celle d'Émilie, celle de Nora, en quelque sorte. C'est un peu le personnage central finalement, Camille.
On va dire oui, en tout cas il a des interactions avec beaucoup de personnages, on le voit évoluer dans ses histoires amoureuses parce que c'est une histoire d'amour, voilà. Après personnage central, en tout cas il est bien influencé par les autres. Et notamment aussi je rajouterais même par le rôle d'Amber Sweet qui ne voit pas mais qui à travers Nora quand même a une grande influence sur son évolution à lui. Voilà.
Comment tu as appréhendé ce tournage? C'est pareil avec Jacques Audiard.
Lucie disait qu'elle parlait beaucoup d'imagination. Je l'appréhendais pas, j'étais vraiment très excité. Je connaissais son cinéma et puis surtout ça a été on va dire très drôle et très agréable parce que on a beaucoup travaillé en fait, voilà. Et il voulait faire une comédie et en fait c'est assez exigeant la comédie, donc il faut quand même beaucoup travailler pour pouvoir faire rire. Il voulait faire un film léger, il s'est vraiment mis au travail, donc c'était ça qui était vraiment. Et quand le travail ça paye ou quand on sent qu'on y touche, là il y a un plaisir vraiment immense, quoi. Et je trouve c'est ce qui ressort du film, en tout cas vraiment.
Alors le film sort dans quelques jours dans les salles. Il a été présenté au Festival d'Angoulême et après voilà, il y a eu quelques projections aussi en avant-première. Quand vous l'avez vu pour la première fois monter le film, vous vous êtes dit quoi, Jenny? Alors, je crois que toi, t'as déjà censuré une partie du film où il y avait tes parents dans la salle, hein, il me semble. Pour la petite histoire, t'as vu, j'étais à Angoulême.
Oui, c'était mes parents étaient en effet à Angoulême et on a fait la blague en disant que mes parents avaient eu la version censurée. Mais non, blague à part, moi la première fois qu'on l'a vu, c'était à Paris pour une projection d'équipe et ensuite il y avait encore des petites retouches à faire et après la deuxième fois c'était à Cannes. Donc j'ai préféré la deuxième fois parce que la première fois on a trop le tournage en tête, on regarde trop quelle prise a été prise, enfin voilà, où étaient les coupures, où étaient les enchaînements, comment ça se passe. Donc on est moins concentré sur le film. Donc la deuxième fois, j'ai vraiment été spectatrice. Ouais.
Lucie, comment tu as réagi, toi, la première fois que tu l'as vu, justement, à cette projection équipe?
La première fois que je l'ai vu, c'était même avant, donc avant la projection équipe. C'était chez Jacques, devant son ordinateur, il m'a laissée toute seule. Là, le film, il était presque fini, niveau montage, et il restait encore la bande-son. Et donc, je l'ai vu, je m'y attendais pas, parce que je pensais profiter d'un film, donc comme disait Jenny, pouvoir être en position de spectatrice et vraiment oublier que c'est nous, qu'on a travaillé dessus et oublier tout ce qui s'est passé en amont. Sauf que j'ai vraiment du mal, c'était un peu dur.
Makita, mais toi c'est pareil, quand tu as regardé le film du coup, la première fois, tu t'es dit quoi? Est-ce que tu as pu échanger justement aussi avec Noémie, avec Lucie là-dessus?
On n'a pas pu échanger tout de suite, mais la première fois que moi je l'ai vu, bizarrement c'est le contraire, j'ai vu vraiment j'ai vu le personnage en fait, c'est très rare. Pour une fois je me suis pas vu et je me suis pas vu faire. Voilà. Donc j'ai vraiment pu apprécier le film, j'ai trouvé que c'était un petit bijou très moderne et j'ai été surpris parce qu'en fait on nous parle beaucoup de la modernité du film, du fait qu'il ait filmé la jeunesse, mais ça on s'en rendait pas compte nous en tournage. On s'est pas rendu compte de la modernité du truc. J'ai trouvé ça hyper moderne. Voilà, même moi je suis pas aussi moderne en fait, faut dire la vérité. Je suis un peu plus âgé que le rôle et vraiment j'ai été agréablement surpris, mais j'ai tout de suite pris du recul, j'ai vu un personnage, voilà, pour ça.
Alors c'est vraiment un film sur l'amour aussi, un film drôle. On y trouve évidemment voilà quelques répliques qui nous font bien rire dans la salle. Hein. J'ai entendu le public hein, quand même aussi rigoler. Mais est-ce que vous, il y avait des scènes que vous redoutiez malgré tout avant de les tourner?
Non. Après, il y avait des scènes que j'avais hâte de tourner. Par exemple, la scène du chien, où j'avais vraiment hâte de la faire. Parce qu'elle me faisait, sur le papier, elle me faisait rire. Donc, j'avais hâte de pouvoir l'incarner, quoi, vraiment.
Lucie, pour toi, est-ce qu'il y a des scènes que tu redoutais au tournage ou au contraire, peut-être un beau souvenir à nous raconter?
Je me souviens que la scène qu'on a tournée sur le toit, c'était vraiment un bon souvenir parce que on était très haut et je suis jamais montée aussi haut et ça faisait vraiment du bien d'avoir la belle vue, de voir Paris d'aussi haut. Voilà.
C'était très romantique en plus, cette scène-là.
Et les moments aussi où où Émilie elle est chez elle et entre les prises par contre, les moments où on a 5 minutes de repos et ces 5 minutes on a l'impression qu'ils durent très très longtemps. Et c'est aussi parce que c'est haut, on est dans l'immeuble et le soir on peut regarder à travers l'immeuble, enfin à travers les fenêtres et c'est, comment dire, c'est un peu hypnotisant et ça fait rêver un peu. Je sais pas, ça nous éloigne un peu de ce qui se passe autour et ça, on vole, voilà.
Est-ce que pour toi, Makita, il y avait des scènes particulières que tu redoutais ou alors un beau souvenir à nous raconter aussi sur ce tournage pour terminer?
Les scènes que je redoutais, on va dire que non, j'en redoutais pas, mais un beau souvenir. J'attendais beaucoup la scène où on était tous les trois ensemble, avec Nora et le personnage d'Emilie aussi dans l'agence immobilière. Voilà, le moment où elles se rencontrent. Voilà, dès qu'il y avait un peu deux femmes autour du personnage de Camille et qu'en fait je pouvais un peu ne plus gérer du tout l'affaire, enfin plus de faire semblant de gérer en tout cas. Je me disais qu'il y avait des trucs assez drôle à faire, en tout cas.
Les Olympiades, ça sort donc le 3 novembre au cinéma, le nouveau film de Jacques Audiard. Merci Lucie, merci Makita, merci Jenny d'être passée nous voir pour en parler. Et on vous dit à bientôt. Merci à vous.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Et on revient dans un instant avec David Oureg, Nicolas Anselmo, Mayel Elajaoui, Mehdi Sadoun, et puis bien sûr Audrey Dana et Nicolas Cuche qui seront avec nous. Alors surtout, bougez pas, à tout de suite dans Chute, on écoute la télé.
Bouge pas, Chute, on écoute la télé, revient dans un instant, à tout de suite. La télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on continue à parler de Demain nous appartient dans Chut, on écoute la télé. On aime bien que les personnages viennent nous voir et c'est Mayel Elajaoui qui est avec nous aujourd'hui. Georges, c'est l'irremplaçable. Bonjour Mayel.
Bonjour, merci beaucoup en tout cas de me recevoir.
Mais dis donc, Georges a pris du grade dernièrement?
Ouais, il a bien travaillé à l'école, hein. C'est pour ça que c'est un message à tous les jeunes et les moins jeunes et les vieux. Travaillez bien et en général on est récompensé. Donc j'ai une petite promotion de la part du commandant que j'ai accepté évidemment puisque le salaire allait avec. Donc c'est assez sympa et je suis très content.
Il va avoir moins de temps de jouer à la console du coup.
Non, mais il va jouer avec tous les joujoux du bureau de la PTS parce qu'on a plein de choses de assez sympas et il va se consacrer à arrêter les méchants.
Exactement. Et puis un commissariat complètement relooké qu'on a découvert mi-août à l'écran pour ce millième épisode. Là aussi, c'est un beau cadeau, ça permet de faire évoluer un petit peu aussi le décor.
Ouais, carrément. Et puis même pour le look de Georges, maintenant que les gens, je peux le dire, ont vu, tout a été relooké, le commissariat, les habits, les caméras, les non, ils ont fait vraiment un gros travail pour essayer de donner aux fans l'envie de continuer à nous suivre avec un petit peu de nouveauté comme dans un couple, comme dans une vie en réalité. C'est ça que je trouve sympa, c'est que si vous êtes en couple avec quelqu'un au bout de 3, 4, 5 ans vous faites toujours les mêmes restos, vous faites les mêmes choses. Il y a une pseudo-lassitude qui peut arriver, qui est naturelle. Alors que faut créer un peu de nouveauté, faut créer un peu de on repeint un peu les murs, on relook un peu les choses pour redonner cette fraîcheur et puis pour donner à d'autres de tomber sur nous et de rester à nous regarder.
Quand t'es arrivé dans Demain nous appartient, je crois que tu es arrivé par un certain temps en fait. Ton personnage était vraiment, je crois, prévu pour un guest. Et vraiment, le public s'est attaché complètement tout de suite à Georges. Comment t'expliques ça?
Je sais pas. Est-ce que je suis arrivé au bon moment? Est-ce que quand je suis arrivé, il y avait Laurie Pester qui est quelqu'un aujourd'hui que je considère comme ma famille parce qu'on se voit en dehors encore aujourd'hui, on dîne chez les uns et chez les autres.
Elle s'est pas noyée, c'est la bonne nouvelle.
Non, elle s'est pas noyée, j'ai été la sauver. Moi j'étais j'ai piqué une tête, moi non et du coup j'ai été accueilli aussi royalement par Samy Garbi et Laurie, donc j'ai été bien accueilli au bon moment et les ingrédients ont fait que peut-être ça a pris. Et si j'étais arrivé un an après, est-ce que ça aurait marché? Je ne sais pas, mais en tout cas je reste complètement reconnaissant aux téléspectateurs, aux fans, et je les remercie du fond du cœur.
Georges a des scènes très drôles avec Martin Constant quand même. On sent que c'est toujours un petit peu... ils s'aiment ces deux-là. On voit bien qu'il y a quand même une amitié sincère et puis évidemment de collègues. Mais on voit qu'il y a toujours un petit peu de piquant quand même entre les deux.
Ouais, c'est hyper intéressant cette relation parce que il y a l'image du commandant que Georges adore parce que c'est l'autorité et puis que bah il faut le respecter, etc. Et Franck Consigny apprécie Georges par le sérieux qu'il a dans son travail, l'efficacité qu'il peut amener et sa complémentarité avec ses collègues. Donc il y a, je pense, les deux s'apprécient et essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc c'est vrai que c'est une belle relation. Il y a des choses très drôles à jouer ensemble.
Alors il y a une grosse intrigue qui va arriver autour de Victoire dans les mois qui viennent, donc évidemment je pense que Georges va être aussi de la fête.
Ouais, de la fête. Est-ce qu'on peut appeler ça une fête? Mais
je crois pas. Mais vous allez le découvrir bientôt, en tout cas.
Ouais, c'est ça. Les gens vont voir des nouvelles choses, des nouvelles choses. Ça va tanguer, ça va bouger, et il va y avoir de belles choses à voir, des choses très très dures, très très fortes. Et j'espère que les gens vont aimer parce qu'on s'est donné beaucoup de mal à les tourner et pour que les gens soient fans, quoi.
On peut dire que l'amour avec Victoire va être mis à rude épreuve.
Oui, l'amour va être mis à rude épreuve quand Victoire va être pas très très bien. En général, encore une fois, comme je dis, comme dans la vraie vie, le premier cercle, les proches en chient un peu plus que les autres. Donc il va y avoir des ricochets sur moi, des répercussions sur moi.
Visuellement, la série s'est fait un magnifique lifting mi-août. Évidemment, on le disait, pas qu'au commissariat, mais vraiment avec plein de nouveaux personnages aussi. Fêter un 1000e épisode d'une série, c'est quand même un événement, c'est symbolique aussi. C'est ce qui s'est passé le 26 août dernier. Ça aussi, c'est un beau cadeau quand même.
Ouais, c'est assez fou, c'est assez incroyable. Et encore une fois, on remercie les fans, on les remercie parce que c'est grâce à eux. Et nous, on fait tout pour qu'ils soient fiers de nous.
À 7, c'est devenu un véritable pèlerinage. J'ai vos courses hein, partout. Hein.
Ouais, c'est vrai qu'à 7, c'est devenu compliqué l'été parce que c'est vraiment, vraiment blindé. Mais voilà, encore une fois, on est content. On sait pourquoi les gens sont là. Les gens peuvent nous attendre des heures devant le studio. Voilà, parfois, on peut pas s'arrêter parce qu'aujourd'hui, avec les conditions sanitaires, même si ça va un peu mieux, faut pas oublier que les choses peuvent aller, encore une fois, très vite. Donc, voilà, on a un peu moins de temps physiquement avec les fans, mais sincèrement, dès que ça va passer, on va kiffer les retrouver, les prendre dans nos bras et s'amuser avec eux.
Il y a une scène, une anecdote assez drôle que t'aurais à nous raconter, justement, sur l'année qui vient de passer, sur le tournage ou que t'as pu partager avec un de tes partenaires de jeu.
Franchement, il y a tellement de choses. Une anecdote régulièrement avec Solène, on a du mal à se concentrer parce qu'elle est très drôle en fait, très 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 drôle. Du coup, juste sa tête, elle me fait des têtes. Tout le monde la voit belle, etc. Mais elle peut être très très drôle avec une tête très chelou. Donc c'est dur de se concentrer. Voilà.
Fait des grimaces, tu veux dire. Des gros sur les contrechamps.
Ah ouais, c'est Gollum dans le Seigneur des Anneaux, quoi.
Mais on le voit bien en tout cas que vous vous amusez. Est-ce qu'il y a des projets pour la suite, Maïel? Est-ce que justement ça t'a donné aussi la possibilité de faire d'autres choses? On va te voir dans d'autres séries peut-être, cinéma, théâtre, guest, raconte-nous.
Peut-être ciné, c'est en train de se caler si les dates se coordonnent bien avec le DNA parce que c'est eux qui sont prioritaires. Et évidemment, mon spectacle, mon seul en scène que je vais commencer à jouer bientôt et que j'espère tourner un peu partout en France et évidemment dans notre belle région pour pouvoir faire plaisir à tout le monde.
Ah bah j'espère que tu vas venir chez nous, hein, en Nouvelle-Aquitaine. Hein.
Avec grand plaisir, j'y serai avec grand, grand, grand plaisir.
Donc tu reviendras nous en parler, tu nous le présenteras, ce spectacle, ce seul en scène, qu'est-ce qui nous attend, en quelque sorte?
C'est la présentation de qui je suis, en fait. Les gens connaissent Georges via la télé, mais il faut qu'ils connaissent Maïel, parce qu'il est très, très drôle, Maïel, plus intéressant que l'autre. L'autre, il est sympa, mais Maïel, il est encore plus sympa.
Yes, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Maïel, tu nous l'as bien vendu. Merci, et puis à très vite.
À très vite et restez vous-même parce que vous êtes toujours au top. Merci beaucoup, à bientôt.
C'est mon grand-père qui a enlevé Judith Delcourt. Et l'autre femme, Malice en pleine forêt, il s'est barré avec sa vieille camionnette noire.
On peut encore discuter. Vous allez me dire où sont Judith et Roxane.
Pardonne-moi, monsieur.
Non, faites pas ça.
Tout commence, c'est votre série que vous regardez tous les soirs sur TF1 du lundi au vendredi à 18h30. On continue à mettre les personnages à l'honneur à travers les comédiens qui sont avec nous. C'est Nicolas Anselmo qui nous rejoint. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous avec ce personnage d'Eliott, ce personnage qui fait passer tellement de messages et qu'on aime tant aujourd'hui et qui a conquis le cœur du public à une vitesse hallucinante.
Oui, sincèrement, ouais, c'est super de voir autant de choses à la télé, surtout de télévision française. C'est vraiment trop cool.
T'as été surpris de voir justement de pouvoir conquérir le cœur des téléspectateurs aussi vite, que ton personnage pèse autant? T'avais des appréhensions?
Plus ou moins. Non, franchement, globalement, non. J'ai beaucoup de distance avec les critiques et du coup, je savais naturellement qu'il y aurait du bon comme du mauvais. C'est comme partout, c'est une sorte d'équilibre. Et je savais.
Quand c'est comme ça, faut prendre que le bon.
Quand c'est comme ça, faut prendre. Par rapport à quoi?
Bah, faut prendre que le bon des critiques.
Oui, et encore, moi, je suis beaucoup dans le. Oui, je regarde le bon, mais je suis très centré. C'est-à-dire que il y a le bon d'un côté et le mauvais de l'autre, mais j'unis les deux sans trop m'y attarder non plus. Voilà.
Il y a un duo emblématique. C'est vraiment celui avec Catherine. David Zenka, vous formez une histoire d'amitié qui se voit aussi bien à l'écran qu'à la ville. On a vraiment l'impression que c'est une histoire d'amitié très forte qui s'est nouée. Mais entre vous tous, entre les comédiens?
Entre nous tous, moi je le dis tout le temps, on s'est retrouvés. Voilà. Bon, avec Rebecca Benamour, ça c'est une certitude. Il n'y a même pas de mots pour décrire ce que je ressens pour elle. Mais nous tous, j'ai vraiment l'impression qu'on nous a tous repris de vies différentes. Et hop, maintenant, aujourd'hui, on fait ça tous ensemble et on se retrouve comme une famille, quoi.
Ouais, comme une famille, et puis en plus, dans un décor vraiment magnifique. Quand t'es arrivé la première fois à Calvière, tu t'es dit quoi?
Bah, j'ai fait waouh, juste waouh. Moi, quand j'ai vu toutes ces arbres, ces plantes, ces fleurs, moi, je suis resté focus sur les plantes et sur les fleurs, quoi. J'ai trop adoré.
Alors évidemment, maintenant tu formes ce couple emblématique avec Mickaël, avec des messages vraiment très forts. Tu as même eu des félicitations de ministre quand même, faut le dire, pour ces messages diffusés à l'antenne. T'as été surpris quand même que TF1 ose justement, à une heure de grande écoute comme ça, diffuser des messages comme ça? Tu t'es dit waouh, c'est bien qu'enfin une chaîne ose.
Voilà, alors surpris non, mais très très content en effet, parce qu'il faut que les choses bougent et il faut surtout, sans trop s'y attarder non plus, mais montrer ce qui se passe vraiment. C'est un bon pas, c'est une très belle porte d'ouverture, mais je pense qu'on peut pousser encore, encore et encore.
Et alors avec Mickaël, je pense que là t'as un partenaire de jeu qui doit être bien pour ça, pour pouvoir pousser les curseurs assez loin dans cette relation.
Ouais, franchement, ouais. Bah à nous deux, on...
Vous avez l'air de bien vous amuser.
Ouais, franchement, grave. Ouais, je me fous beaucoup de sa gueule, mais c'est sympa. Il sait que je l'adore.
Quel est ton meilleur souvenir de tournage? Est-ce que t'as un souvenir particulier à nous raconter? Pour le coup, qui ressort un petit peu, tu dis, où il y en a tellement en fait.
Oui, il y en a beaucoup trop. J'ai deux souvenirs assez emblématiques. Celui, la séquence où je mange des choux avec Catherine, enfin Hortense. Je me suis tapé un fou rire, je pleurais, j'y arrivais plus. Et mon véritable souvenir, c'est mon premier jour de tournage, la première séquence que j'ai tournée où je monte mon cul dans les vestiaires.
Ah oui, je crois que pour Catherine, c'est aussi mémorable.
Ouais, grave. Et même pour Greg, et puis du coup, Lionel en face, quoi. Enfin, Mika et Lucien.
Est-ce que ça a ouvert des portes ici de commencer? Est-ce qu'il y a des propositions qui commencent à arriver pour d'autres rôles, télévision, cinéma, théâtre, des projets?
Alors pour l'instant non, j'ai quelques castings, mais comme je suis beaucoup sur la série, j'ai pas vraiment le temps de faire autre chose. Quoique je peux l'avoir, je suis dans cette série, mais je suis quand même assez libre et on peut faire, je pourrais faire autre chose en soi. Surtout que là ça va se calmer un petit peu, il va se passer plein de choses, mais ça va, voilà. Mais j'aimerais beaucoup.
Et sinon, Nicolas, t'aimerais faire quoi, toi? T'aimerais incarner quel rôle si on devait te proposer autre chose dans une autre série pour t'évader un petit peu aussi de ce rôle d'Eliott?
Eh bien, j'aimerais qu'on me propose tout rôle possible, parce que c'est le rôle de l'acteur de pouvoir jouer plein de choses. Et j'ai envie d'incarner plein de thématiques différentes et plein de personnages différents. Donc, des films d'époque, des films d'auteur, tout, plein de choses. Plein de choses. J'ai une série préférée qui s'appelle Euphoria, c'est ma série préf. J'aimerais beaucoup teen drama, des trucs. J'aimerais plein de choses encore.
On pourrait chercher pour des drames, des films historiques, de la comédie, t'as envie de tout mordre à plein dedans.
Absolument. Et ne pas forcément être dans une case et de faire que ça. Je peux faire plein d'autres choses. Mais c'est à nous de chercher ça aussi. Mais il faut qu'on nous donne l'opportunité. Et donc, on verra. La vie, on verra ce qu'ils disent.
Message aux producteurs, aux réalisateurs, voilà, qui peuvent nous entendre. En tout cas, voilà, Nicolas est prêt.
Dans tous les cas, il n'y a pas de hasard et voilà.
Que là, t'es là déjà. Et je peux te dire que ici, tout commence simplement.
Exactement, j'adore.
Ça donne envie de cuisiner quand tu rentres le soir, cette série, justement?
Franchement, non. Non, alors pas du tout, non. Non, je mange le décor beaucoup. Je dis souvent, je mange ce que je trouve là-bas. Sinon, le soir, plutôt la flemme, non. Je cuisine un petit peu. Je fais beaucoup de pâtes.
T'as pris des choses quand même sur le tournage en niveau cuisine?
Non. Non, parce
pas spécialement.
Non, pas spécialement. Franchement, non, parce que en plus c'est beaucoup viande, poisson, tout ça, et je suis végétarien. Alors, J'ai pas appris grand chose. Non.
Bon, merci Nicolas d'avoir été avec nous en tout cas.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Je t'ai vu avec quand en cuisine.
Mais c'est Louis là, ton ex qui nous a mis en binôme.
Tu bosses avec qui tu veux, ça me regarde pas. Maxime, c'est pas un mec. C'est le mec que j'aimais.
La méchante âme a encore ruiné la vie parfaite de Salomé.
Écoute, t'ouvre encore une fois la bouche et je te jure que sors maintenant, sors.
Putain, mais tais-toi. Je comprends pas, pourquoi tu me laisses pas tranquille?
Jasmine, calmez-vous.
Eh ben, vous avez qu'à vous en occuper, parce que vous êtes si forte. J'ai craqué, je suis désolée.
C'est peut-être le moment de prévenir le père, tu crois pas? Il est à l'institut.
Coup de cœur télé consacré à Germinal qui fait son arrivée mercredi sur France 2. Un événement exceptionnel pour cette nouvelle adaptation d'Émile Zola qui a été confiée à la réalisation à notre ami David Doureg qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour David.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Tu as mis en boîte ces 6 fois 52 minutes qu'on va déguster pendant 3 semaines avec cette nouvelle adaptation. Un casting 4 étoiles que je suis sûr que tu as eu le plaisir de diriger.
C'était une expérience formidable. Le casting s'est fait de façon très naturel. Alors, principalement pendant le confinement, on recevait beaucoup de tapes de comédiens et c'est un exercice extrêmement compliqué. Je les regarde toujours avec beaucoup d'indulgence, mais là, je dois dire que tout s'est fait excessivement naturellement, y compris le cast de comédiens un peu à contre-emploi comme Guillaume de Tonquédec qui est formidable dans Monsieur Hennebeau. Quand il est venu me voir en me disant mais David, pourquoi tu me proposes ce rôle de salaud ? Je lui ai dit, mais Guillaume, quoi que tu fasses à l'écran, je reste en empathie avec toi. Et c'est précisément ce que je souhaite pour ce Germinal revu et corrigé.
Comment t'as réagi, justement, quand t'as su que t'allais réaliser, que t'allais devoir aussi respecter un peu, évidemment, aussi le roman de l'époque, hein, de 1885. C'est une charge, quand même, émotionnelle, à la fois, quand on reçoit un projet comme ça, et à la fois, ça doit être, on va dire, quelque chose de très excitant aussi.
C'est vertigineux, et comme je le disais dès le départ à France Télévisions, à mes producteurs, je leur disais, ne soyez pas surpris si... durant les premières semaines, voire les premiers mois, à beaucoup de vos questions, je vous réponds, je ne sais pas, car on serait bien mal indiqué de vouloir avoir la prétention de tout savoir sur la manière dont Zola a pensé les choses et de la meilleure manière, à mon tour, de la mettre en image. Ce vertige, les auteurs, à commencer par Julien Lelouch, s'y sont confrontés également. Mais c'est vrai que j'ai tendance à faire confiance à la peur, au vertige, à l'angoisse qui s'empare de moi quand on me propose un projet comme étant, je dirais, un très bon signe de m'y plonger tête baissée. Car en général, c'est un véritable moteur, tous ces sentiments, pour ma créativité. Et ce qui est assez amusant, c'est que, tandis que je m'interrogeais sur ma légitimité à raconter cette histoire, je me dirigeais vers une projection de SCAM, le précédent programme dont j'avais la charge. Et ma mère m'avoue entre deux projets que mon arrière-grand-père était certainement très fier de voir réaliser Germinal. Quand je lui pose la question de savoir pourquoi, elle me dit « Mais David, ton arrière-grand-père était lui-même mineur à Liévin. » Alors ça, autant vous dire que je découvrais cette information au moment où j'avais le script de Germinal dans les mains. Et ça a été une façon assez incroyable et forte de me rendre compte que cette histoire, finalement, nous concerne tous, plus ou moins, de façon directe. Donc c'était une espèce de confrontation un peu inattendue à mes propres origines et ça a été un des événements qui m'ont incité à accepter le projet.
Comment tu as choisi ton Étienne Lantier ?
Je suis arrivé sur le projet avec cette conviction et cette demande immédiate. Louis Pérez, que j'avais vu bien sûr dans Mental, mais que j'avais croisé plusieurs fois en casting, avait ce mélange de regard de loup, cette énergie absolument colossale et incroyable, et de fragilité à la fois. Et je tenais tellement à ce qu'on ne présente pas un Étienne Lantier d'ores et déjà convaincu de sa puissance de convaincre la foule, mais dès le texte, on raconte l'histoire plutôt d'un jeune homme qui va découvrir qu'il est doté de ce pouvoir de lever un mouvement. Et Louis a tout ça. Il a un talent monstrueux, il a une beauté absolument hypnotique, mais il n'est pas encore complètement conscient de tout son potentiel à captiver l'audience. Et il est rentré dans la salle, ça a été le premier que j'ai vu. Il a livré le discours du plan des dames qui clôture l'épisode 3. de bon matin et est parti aussi vite qu'il était venu. J'ai tout de suite appelé la prod en disant mais c'est lui, on va bâtir Germinal autour de lui.
Et on va découvrir évidemment ses aventures sur trois soirées. Ça démarre mercredi à 21h05 sur France 2. Je sais que la pression est lourde, mais voilà, le résultat est là. La presse est dithyrambique sur la réussite de cette adaptation. Donc vraiment, voilà, on te souhaite de belles audiences, en tout cas, David.
Merci beaucoup, Alain. Merci de ton suivi depuis tant de temps. Et longue vie à Chute, on écoute la télé.
Exactement, et c'est avec toi effectivement qu'on avait fait notre première émission en Outre-mer à La Réunion sur le tournage de Cut, et c'était un très très beau souvenir qu'on a en commun. Merci David.
Merci, c'est vrai.
Et puis
merci,
on va écouter la bande-annonce tout de suite de Germinal, c'est mercredi sur France 2. À très vite.
Au revoir.
Comme vous pouvez le voir, j'ai baissé les coûts d'exploitation. Du coup, malgré la crise, nous avons atteint les objectifs fixés.
À partir du mois prochain, chaque berline sera payée 2 centimes de moins.
Camarades, vos revendications sont justes et la justice ne se demande pas, elle s'impose.
Les mineurs sont en route, des centaines de toute la région.
Seul un idiot quitte la partie avant d'encaisser ses gains.
Notre coup de cœur télé cette semaine va s'intéresser à L'Ami qui n'existe pas, qui va être diffusé sur France 2. On y retrouve aux manettes de ce thriller psychologique Nicolas Cuche, qui était notre invité en début de saison avec son merveilleux film comédie Pourri gâté. Il est de retour, il l'avait promis. Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et puis, il n'est pas venu tout seul. Il est venu avec une belle surprise, un beau cadeau. C'est Audrey Dana qui est notre invitée. Bonjour Audrey.
Bonjour, je l'ai collé. Hein. Je l'ai collé. Il voulait pas venir avec moi, mais je suis montée dans sa...
Il n'a pas lâché.
Voilà, c'est ça.
Bon, Audrey qui a terminé la saison dernière avec nous, avec Profession du Père. Là aussi, un très beau rôle. On a pu te retrouver d'ailleurs, Profession du Père, qu'on retrouve en VOD et en DVD. Maintenant, moi, je conseille le dernier film de Jean-Pierre Améris. Alors, on va parler de Camille, bien évidemment. Cette maman qui vient de vivre un deuil terrible de son mari et puis qui va avec son fils de 11 ans changer de vie, du moins qui va essayer, mais on va découvrir que ça va pas être aussi facile que ça, évidemment, tout au long du film. On est dans une sorte de cluedo un peu à tiroir, parce qu'on voilà, on essaie de nous emmener vers des pistes, et puis en fait, ça ne sont pas les bonnes, on essaie de nous emmener vers d'autres. Enfin voilà, c'est tout un thriller psychologique qui nous emmène pendant 90 minutes au cœur d'une disparition inquiétante, et on sait pas trop, voilà, ce qui se passe derrière, et vous le découvrirez. En tout cas, Nicolas, comment est né ce projet ?
Alors ce projet, c'est un scénario que j'ai coécrit avec Olivier Norek. Peut-être que t'es...
Qu'il en doit territoire, par exemple.
Qu'il en doit territoire, par exemple, entre deux mondes. Il est venu me trouver à un moment avec une idée originale. Voilà, c'était une idée, qui est l'idée de départ du film. Et on a écrit ce film ensemble. Bah, il est très fier du film. Il est à Saint-Pierre-et-Miquelon en train d'écrire son prochain film. Mais c'est la première fois qu'il a un scénario original qu'on a coécrit ensemble qui est réalisé. Et c'est venu d'un postulat extrêmement simple. Lui, c'est un ancien flic. Moi, j'ai des enfants. Donc lui, il est un petit peu dans la parano et dans le... Et moi, je suis plus... Et moi, j'ai des enfants. Et c'était venu de l'idée de simplement de se dire, parfois, on peut envoyer ses enfants chez des gens qu'on connaît pas. Et on l'a tous fait. Et qu'est-ce qui se passe si son enfant ne revient pas ?
Ne tombez pas voilà. Entre de bonnes mains.
De bonnes mains. Voilà. Donc c'est vraiment, on est parti d'un postulat auquel tout le monde pouvait s'identifier. Et voilà, d'une peur à laquelle tout spectateur et toute spectatrice peut s'identifier.
Alors, on vit ce drame en plus avec cette maman qui vient déjà de perdre son mari, et là on vit vraiment ce drame inquiétant et cette disparition.
Le problème, Nicolas, avec ton film, c'est que tous les parents qui vont le voir maintenant, leurs gosses n'ont plus le droit d'aller aux anniversaires des copains, c'est fini. Mais c'est vrai, combien d'anniversaires on envoie nos enfants? On a vaguement vu la carte, bon, on n'a pas vérifié le téléphone, on n'a pas vérifié l'adresse, c'est une sortie de classe, on va faire ça. Mais moi, combien de copains j'ai invité chez moi alors que les parents ne me connaissaient pas? Et quand on y pense, c'est vrai que c'est assez insensé. Moi, j'adore ce projet et j'ai adoré la lecture du scénario parce que c'est vraiment le thriller psychologique dans toute sa puissance, c'est-à-dire qu'on se tape la tête contre les murs, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe.
Et jusqu'à la fin.
Et jusqu'au bout du bout du bout du bout. C'était très troublant à lire, passionnant à jouer. Ça donne très envie de le partager avec le public parce qu'on aime bien jouer avec le cerveau des gens.
La première lecture, Camille, pour endosser ce rôle. pour se préserver de ce rôle quand même difficile, on fait comment? On met un mouchoir quand même pendant un mois de tournage et on se dit voilà, et on évacue après toute cette pression. Comment tu te prépares à un rôle comme celui-là aussi intense?
Je me suis jetée corps et âme dans le film, dans le personnage, en faisant une entière confiance à Nicolas Cuche, en fait. Je me suis dit, c'est lui qui va doser un peu plus, un peu moins, on n'y va pas. C'est vrai que c'est particulier, on commence un film sur une femme qui est déjà au bout de sa vie. Elle quitte tout, elle vient de perdre son mari. C'est-à-dire que ça pourrait être l'étape psychologique de la fin d'un film. Donc on commence avec un état psychologique déjà qui est très très intense. Ça va faire que monter. Et tout l'enjeu, c'était, oui, mais faut pas qu'on sature. Faut pas qu'on en ait marre. Faut qu'on continue à l'aimer, à la suivre. Et donc, j'ai fait toute confiance à Nicolas. Et puis, j'ai été, quand vous dites, je vous mettais un voile sur votre vie pendant un mois, non, heureusement que non. Je garde ma bonne humeur au cœur de moi, toujours. Et comme ça, je peux pas plonger avec les personnages. Parce que il n'y a pas un rôle qui mérite qu'on plonge avec lui, en fait. J'ai pas envie de ça. Si, entre moteur est coupé. Mais quand c'est coupé, et quand je sais que mon metteur en scène a eu ce qu'il voulait, et qu'on peut passer à autre chose, donc que j'ai une petite pause, alors je prends cette pause. Je me souviens sur une séquence où justement je craquais, un peu la séquence du miroir où elle craque, la prise s'arrête et puis je sens la main de Nicolas qui me dit « ça va ?»
Je lui dis « bah oui !»
« Bah oui, moi Audrey Dana, ça va super, je suis en train de faire le métier que j'aime le plus au monde, je joue la comédie, j'ai des acteurs formidables autour de moi, j'ai un scénario en or, j'ai un rôle en or, si ça va, mais ça va super !» Et t'as tout de suite compris, je crois que c'est à partir de ce moment-là que tu t'es dit « ok, bon, elle se prend pas la tête déjà. »
Bon, il va y avoir de beaux projets qui arrivent aussi pour vous deux. Il y a ton prochain film, Enfin. Il aurait pu s'appeler Enfin, Audrey. Hein, en mars, il va sortir Enfin et ça s'appelle Homme au bord de la crise de nerfs. D'habitude, c'est Femme au bord de la crise de nerfs, mais là, c'est Homme où tu mets vraiment les hommes à l'honneur.
Ouais, j'avais envie de filmer les hommes, j'avais envie de les effeuiller comme on pourrait découvrir les différentes couches d'un oignon. J'avais envie d'aller au cœur et de montrer un peu les hommes comme nous on les connaît, nous les femmes, c'est-à-dire en vivant avec eux et en les voyant pas forcément dans leur rôle de bonhomme. Et voilà, ça a été délirant de diriger cette grosse troupe d'acteurs, de mecs, et de les amener là où j'avais envie de les emmener, c'est-à-dire vers quelque chose de touchant et de sensible. Et je crois que le film est drôle aussi, ce qui est important.
Et on y retrouvera au casting Pascal Demelon, Laurent Stocker de la Comédie Française, il y aura François-Xavier de Maison et plein d'autres monde, Thierry Lhermitte. Enfin bref, tu es entouré à merveille.
Ouais, vraiment, j'ai beaucoup de chance. C'est Marina Hans qui représente les femmes dans le film.
Bon, et puis évidemment, comme il y a 3 ans entre le tournage et la sortie du film, mais évidemment, le prochain est déjà sur la route, hein, on va dire, il est déjà en préparation.
Ouais, voilà, je suis en train de finir d'écrire, en fait, mon 4e long métrage que j'espère avoir la chance de tourner cette année. Je dis j'espère avoir la chance parce qu'on sait que aujourd'hui, on est dans un sacré embouteillage au cinéma et que forcément, par la force, enfin, on va être obligé de produire moins. Donc, j'espère le réaliser cette année. Ça s'appelle Champagne et funérailles et on va parler de la mort.
Mais de façon joyeuse, comme tu sais le faire.
Toujours, moi il y a toujours de la joie. Quoi que je fasse, il y a de la joie, quelque part.
Nicolas, les projets?
Et ben moi je suis en train de... C'est marrant parce que je suis en train de terminer donc l'écriture de ce qui est mon prochain long métrage qui s'appelle Joyeuse funérailles.
C'est vrai?
Oui.
C'est pas vrai?
Non, si c'est vrai. Qui est sur un enterrement de vie de garçon et qui parle de la mort de pas mal de choses aussi, d'étapes, mais sur un ton léger de comédie. Et voilà.
On est sur la mort du célibat là, en gros.
On est sur la mort de plein de choses. C'est comment aussi on se réinvente, comment on doit traverser différents états, comment on reste pas figé dans quelque chose, comment le deuil n'est pas si grave que ça, et comment il faut passer aussi parfois du deuil pour se réinventer et pour renaître. Tout ça, bien sûr, sur un ton de comédie humaine.
Et c'est fou, non? On est vraiment fait pour travailler ensemble, ouais, tu trouves
dingue.
Pas?
Ben oui.
C'est dingue, jusqu'au ouais. Titre de nos futurs films.
Ben voilà,
c'est qui va jouer l'enterré?
Eh ben, pour l'instant, je termine le scénario, donc on va commencer le casting, j'espère bientôt, quoi. Voilà.
Et ben voilà, de beaux projets. Puis comme ça, ça vous donnera l'occasion de revenir en parler. Vous êtes les bienvenus, vous le savez. Dans Chute, on écoute la télé, vous êtes chez vous. Merci infiniment. On va continuer à parler de l'ami qui n'existe pas dans un instant, juste après la bande-annonce. Et c'est eh bien notre ami Mehdi Sadoun qui va nous rejoindre. Le commissaire, on va essayer de lui tirer un tout petit peu les vers du nez, parce qu'évidemment, on va pas vous spoiler cette histoire qui vous attend. Donc, l'ami qui n'existe pas, c'est cette semaine sur France 2. Merci à tous les deux.
Avec plaisir, merci à vous.
Merci, avec plaisir.
Inédit ce soir.
Je suis trop contente.
Ça fait du bien de le voir sourire.
Tu vois, il suffisait juste qu'il se fasse un copain, c'est tout.
Il s'appelle Jeff.
Je suis invitée à son anniversaire.
Moi, je viens de parler avec le père de Jeff au téléphone.
Il t'invite à dormir.
Yes.
Veuillez laisser votre message après le bip.
Oui, bonjour, c'est la maman de Martin. Je vous ai confié mon fils hier. À dormir, il n'est pas là, sorti de l'école.
Vous dites qu'il a passé la soirée chez quel camarade?
Jeff Duras.
Nous n'avons pas de Jeff Duras dans l'établissement.
Bon, je vais lancer une alerte enlèvement.
Comment j'ai fait pour laisser mon fils à des gens que j'ai jamais rencontrés?
L'ami qui n'existe pas, c'est donc ce soir à 21h05 sur France 2. Dans un instant, continuez à en parler avec Mehdi Sadoun. Surtout, bougez pas, tout de suite dans Chute, on écoute la télé.
Bouge pas, Chute, on écoute la télé revient dans un instant. A tout de suite. La télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et voilà, donc l'ami qui n'existe pas cette semaine sur France 2. On continue à en parler avec notre ami Mehdi Sadoun qui nous a maintenant rejoint. Bonjour Mehdi.
Bonjour, comment vas-tu mon ami?
Eh bien ça va très très bien, je suis très heureux de t'avoir, surtout qu'il y avait un petit moment qu'on s'était pas donné de nouvelles. Mais alors là franchement, entre l'ami qui n'existe pas et le bon Dieu 3 qui va bientôt arriver, je crois qu'on va plus se quitter cette année.
Écoute, que Dieu t'entende. Mais en tout cas, je me souviens, je suis venu il y a 2 ans, c'était avec un petit projet TF1, enfin un projet TF1 qui s'appelait Itinéraire d'une maman braqueuse. Et quand je te vois, je suis content. Ça rappelle à quel point j'ai les projets qui arrivent.
C'était un beau projet avec Cécile Rébois, je m'en souviens très très bien. Alors là, l'ami qui n'existe pas, toi qui es sur le registre d'habitude de la comédie, là tu joues le rôle du commissaire Delzar qui va essayer de faire la lumière un peu sur la disparition de cet enfant, sur ce fameux Jeff que l'on va découvrir dans cette histoire. On a déjà planté un peu le décor avec Nicolas et avec Audrey. Mais toi, quand tu as vu ce rôle du commissaire Delzar, tu t'es dit quoi quand tu as lu le scénario et que tu as vu comment c'était construit, comment c'était vraiment à nous emmener vraiment dans toutes les directions pour essayer de nous paumer un peu jusqu'à la fin, qui est totalement inattendue. Et c'est vraiment un talent, quoi, Nicolas, que chez toi, quand tu l'as lu au scénario, tu t'es dit quoi, là?
Bah, quand j'ai reçu le scénario, j'ai vu la taille du scénario et j'ai vu qu'il n'était pas très 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 gros. Et en fait, en le lisant, j'ai eu une histoire, mais je dis, mais l'efficacité est incroyable. On trouve la puissance dans l'épuration. Ça donnait envie de lire. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à lire le scénario, en une heure, je l'avais bouffé et je me dis, mais évidemment, faut le faire. Et quand j'ai lu, et finalement, quand on m'a dit que c'était Nicolas, je me dis, mais il s'est pas trompé, c'est vraiment à moi, il veut me lancer un défi, qu'est-ce qu'il veut? Et j'étais tellement heureux de bosser avec lui parce que je me dis, mais avec ce qu'il a fait, c'était un cadeau. C'était un vrai cadeau. Donc je l'ai rencontré, il m'a dit tu seras le commissaire. J'ai dit écoute, c'est formidable, moi j'ai envie d'être sur un, j'ai besoin de rigueur, j'ai besoin d'avoir un rôle un peu qui me pose, et j'avais envie de défendre un rôle un peu consistant, et j'avais envie d'être dans l'émotion tout simplement, contrairement aux comédies où effectivement l'émotion est un peu limitée parce qu'on est beaucoup sur le rythme, sur les séquences très rapides, etc. Donc lorsque vous finissez une scène, hop, on coupe tout de suite. Et donc quand j'ai rencontré Audrey Dana, j'étais content, mais j'avais une pression parce que j'avais vu son travail auparavant. Et vraiment jusqu'à ce que le premier jour du tournage arrive, j'étais sous pression.
En tout cas, j'ai ressenti vraiment la rigueur du commissaire, évidemment,
ouais.
Mais j'ai ressenti aussi l'humanité de Mehdi.
Oui, c'est-à-dire que à l'image de Nicolas qui est très humain, et la puissance de ce réalisateur, c'est qu'il nous fait oublier qu'il est réalisateur. Donc quand on se retrouve à tourner avec lui, il vous accompagne comme un copain. La simplicité tisse les liens. Il vous rappelle que voilà, il est avec vous. On est là pour, on est dans le même bateau. Et voilà, la manière dont tu viens de faire cette séquence, moi ça me va. Et je lui dis, t'es sûr? Attends, je te la refais là quand même, parce que moi dans ma tête, je m'attendais à un truc où t'allais me dire non, tu pars dans ce truc là. Et non, tout simplement, m'a fait comprendre que dès l'instant où on sait qu'il est commissaire, parce qu'on le voit dans un commissariat et on dit qu'il est commissaire, et ben ensuite je fais appel à ton humanité, à ton humanisme et à ton bon sens face à cette femme qui est pleine d'émotions, dont tu connais pas l'histoire, et enfin on est sur de la normalité, sur quelque chose de simple. Il nous tire vers le bas, dans le sens où voilà, on est tous des hommes et on va se raconter une histoire d'amour. Cette femme, elle a des problèmes et tu vas essayer de comprendre ce qu'elle a en te laissant guider par les émotions qu'elle t'envoie. C'est merveilleux. On est dans de la simplicité, on est dans l'humain. On raconte une vraie histoire. Elle est tournée en plus de manière un peu chronologique, donc. On n'est pas en train de passer de la fin au début et on reprend le milieu, etc. pour des soucis de décor. Là, on est vraiment dans un seul décor, il y en a un ou deux. Et donc, il y a une émotion logique. Au départ, ce commissaire ne sait pas à qui il a affaire. Il croit avoir un fait divers, comme il en a 30 par semaine. Il pense à une fugue. Après, il se rend compte que cette femme, il sait pas. Il essaie un peu de la recadrer en disant il faut pas qu'elle s'inquiète de toute manière puisque c'est des choses qui arrivent. Ensuite, il s'aperçoit qu'il y a l'histoire d'un enfant qui intervient, donc il se rend compte sur les lieux que là ça rigole plus. Voilà, donc faut prendre cette femme au sérieux. Là, on nous annonce que on sait pas qui elle est. Ensuite, elle a un souci médical, donc le commissaire doit s'adapter. Il se dit mais elle a un problème de elle a été en psychiatrie, donc faut pas la choquer. Si je la choque, je risque de ne plus avoir d'informations. Donc il faut être dans l'empathie,
On va finir par les projets, Mehdi. Alors évidemment, quand ce qu'on a fait au Bon Dieu 3, ça c'est pour le 2 février, au cinéma, dans les salles. On va encore bien rire, je pense.
Oui, alors là, troisième volet de Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu, qui va s'appeler Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu, avec la même équipe évidemment. Et là on a un numéro 3 qui va être qui est pour moi la vraie suite du numéro 1. Le 2 était bien, mais il parlait beaucoup plus sur sur la situation des gens qui voulaient un peu quitter la France parce que voilà, il y avait plus de boulot, etc. Et c'était un film qui allait à l'international, ou de manière générale ne parlait pas à tout le monde naturellement au niveau de la famille. Là, le numéro 3, c'est vraiment une histoire familiale. C'est des situations aussi logiques qui pouvaient arriver dans les couples mixtes. C'est-à-dire que là, il y a les parents des couples mixtes qui vont arriver. C'est-à-dire que pour les 50 ans de mariage, allez, le pitch, c'est quoi? C'est les 50 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Les filles décident d'inviter les parents de leur mari pour faire une surprise à Claude, voilà, qui est prévenu la veille. Donc quand il est prévenu, moi à ce moment-là, je suis parti aller chercher toutes les familles des gendarmes. Et ça va être la folie.
Ça va être la folie, y compris du Sénégal. Ça va revenir du Sénégal aussi, évidemment.
Alors on a les parents qui arrivent du Sénégal, on a les parents qui arrivent d'Algérie, on a les parents qui arrivent d'Israël et les parents qui arrivent de Chine. Et il va se passer quelque chose d'incroyable là-dedans, mais de très comique, qui va perturber tout le groupe.
Un melting pot, voilà, comme on dit, qui nous attend. T'as d'autres projets à part ce film? Il y a d'autres choses qui vont sortir aussi.
Bah, je rentre bientôt en développement d'un film à l'écriture avec un ami qui s'appelle Toumani Sangaré, qui travaille pour Canal Plus Afrique, mais que je connais depuis 15 ans, qui faisait partie de Courtrajmé à l'époque, dans la bande de Kim Chapiron, et avec lequel j'avais fait un court-métrage il y a 15 ans, et là il est arrivé avec un début de traitement, il m'a fait: on va bientôt commencer cette histoire dont je te parle depuis 15 ans. Et là, on va se mettre à l'écriture, et puis ouais, voilà. Et puis je serai premier rôle dans le film aussi. C'est une histoire aussi qui raconte le choc des cultures. Mais là, c'est un vrai choc.
Eh bien, écoute, tu auras l'occasion de venir nous en reparler. J'espère bien.
J'espère pouvoir le présenter ici à La Rochelle. Parce que j'adore La Rochelle. J'adore les Rochelais, les Rochelaises, c'est bien ça, hein. Oh là là, j'ai eu peur. Et je me souviendrai toujours de la manière dont ils nous ont accueillis avec le Bon Dieu, hein. Toutes les femmes étaient habillées en mariée. Pour la Dream Team, tout le monde était arrivé en footballeur. On m'avait offert un maillot de football avec écrit La Rochelle, que j'ai toujours chez moi. Et d'ailleurs, même après l'Eurovision en 2007, j'ai chanté là et j'avais animé les Dom Tom Follies en 2007. Il y avait 15 000 personnes. Donc c'est ma ville de cœur, La Rochelle. D'ailleurs, si vous avez un appartement à louer dans le coin, n'hésitez pas.
Voilà, la Nouvelle-Aquitaine, vous avez compris, est chère au cœur de Mehdi Sanoun. Merci Mehdi, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et puis, on te dit à très bientôt, du coup.
Merci à toi. C'est toujours un bonheur de t'avoir en interview, mon ami.
Martin, c'est maman, je suis devant la sortie de l'école et t'es pas là. Rappelle-moi tout de suite, s'il te plaît.
On dit qu'il a passé la soirée chez quel camarade?
Jeff Duras.
Nous n'avons pas de Jeff Duras dans l'établissement.
Comment j'ai fait pour laisser mon fils à des gens que j'ai jamais rencontrés?
Je vais lancer une alerte enlèvement.
Une mère face à l'inexplicable. Inédit, l'ami qui n'existe pas. Ce soir à 21h05 sur France 2.
À Allez, n'oubliez pas, j'ai le plaisir de vous accompagner tout au long de la semaine avec La Quotidienne du lundi au vendredi à 10h07, 12h07 et 16h07 sur Attitude. Retrouvez également cette émission en podcast dès 20h ce soir sur notre site internet onécoutelatélé.com. Elle sera également rediffusée demain soir à 19h. Et pour rester connecté avec nous, plusieurs solutions, notre application pour iPhone et Android, Chute on écoute la télé, nos pages Facebook et Instagram bien sûr. Et je vous retrouve aussi lundi prochain dès 13h pour la grande hebdo de Chute on écoute la télé. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Attitude et je vous dis à demain pour La Quotidienne.
Chute on écoute la télé avec votre espace culturel Leclerc de Barbezieux, votre référence culturelle en Sud-Charente.
Chute on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chute on écoute la télé avec Vue d'ici, volets battants, coulissants ou persiennes innovants, fabriqués en Charente-Maritime. Vue d'ici, le seul et unique volet en composite monobloc à isolation ultra performante et au fainage bois issu d'empreintes naturelles. Vue d'ici, le meilleur volet à tout point de vue.